En 2007, tu as eu un défi au sein de la marque Bourgeois, celui de créer une toute nouvelle marque, la marque Une. Comment ça s'est passé ? Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force des mascaras bio de ta marque Haute Vue ? Peux-tu nous parler du marché concurrentiel des brosses de mascara ? Voici quelques-unes des questions que je vais poser à ma belle invitée Sophie. Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée pour la 78e interview. J'ai le plaisir de recevoir Sophie, la fondatrice de la marque de mascara naturel bio coloré Haute Vue.
Bonjour Alice. Chers auditeurs, moi c'est Alice. Je suis passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être. Donc j'interview dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer. Une beauté imaginée. J'ai découvert la marque Haute Vue grâce à ma belle invitée de l'épisode 76, Muriel, la directrice de la marque cosmétique La Chenet. Et Sophie, tu es donc la fondatrice de Haute Vue. Tu es passionnée par le maquillage, la colorimétrie, les couleurs. Après une carrière très riche dans le secteur du maquillage, notamment au sein de la marque Bourgeois, tu as été surnommée Madame Couleur et tu as lancé ta propre marque de mascara naturel et bio, Haute Vue. Tu vas nous raconter ton parcours et celui de cette belle marque. J'ai pour ma part pu tester le mascara longueur, teinte prune, et j'adore l'effet. Il a une bonne tenue et la teinte que tu m'as conseillée permet de changer du noir, j'aime beaucoup. Et après mon interview, ce sera la rubrique « Les auditeurs t'imaginent ». On vous fera deviner trois infos concernant Sophie. Pour quelles compétences Sophie avait-elle été recrutée en marketing chez Bourgeois ? Quelle a été sa plus grande fierté chez Bourgeois ? Quel est le produit de maquillage que Sophie déteste porter ? Sophie, tu as travaillé donc 20 ans chez Bourgeois. Tu y as créé le bureau des couleurs afin de proposer un maquillage aux couleurs tendances. Et tu as travaillé notamment au Japon, aux États-Unis, en Espagne. Qu'est-ce qu'il y a des spécificités culturelles liées au maquillage dans ces trois destinations ?
Bonjour à toutes et je suis ravie d'être là en direct avec vous. Merci Alice. Alors effectivement, j'ai un peu plus de 25 ans d'expérience dans la beauté et en particulier le maquillage. Comme a pu le dire Alice, j'ai une longue vie chez Bourgeois, à la fois en France et à l'étranger. En France, j'ai été recrutée parce que j'avais un œil sur la couleur et donc j'ai commencé par faire toutes les collections de maquillage qui étaient liées aux tendances. C'était effectivement la collection printemps-été, la collection automne-hiver. Donc je travaillais avec des bureaux de tendances à l'époque. Et puis c'est avéré effectivement qu'on a repéré chez moi un œil sur la couleur. Et au fil des années, j'ai créé le bureau couleur chez Bourgeois où toutes les gammes de produits passaient par le bureau couleur. Donc, on composait les gammes couleurs. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'avoir une expérience à l'étranger et je suis partie dans un premier temps pour une mission au Japon, ensuite une mission aux États-Unis et ensuite 7 ans comme directrice marketing en Espagne, toujours pour Bourgeois. Et donc pour répondre à ta question, effectivement le fait d'avoir eu cette expérience un petit peu partout, j'ai pu étudier et regarder finalement dans la rue les spécificités de maquillage. Et ce que je dirais, en tout cas c'était à l'époque, hein. J'avoue que j'ai plus la chance d'être aussi bien au Japon, aux États-Unis, aussi fréquemment que j'ai pu l'être quand j'étais chez Bourgeois. Mais à l'époque, je parle des femmes dans la rue, je parle des femmes au quotidien, j'avais été quand même très saisie par le fait que je trouvais que finalement, aussi bien en Espagne qu'aux États-Unis, le maquillage était beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus visible que ce que je connaissais en France, avec beaucoup de teint, un teint qui est très marqué et des couleurs assez vives. À la différence du Japon aussi, alors moi je me suis toujours inspirée du maquillage du Japon, déjà parce que il y a moins de camouflage du teint, on est plus dans l'unification. Et puis c'est la palette de couleurs. Moi, la palette, moi qui suis une passionnée de la couleur, au Japon, on va pas trouver des verts, on va trouver des bronzes, on va pas trouver des, on va trouver des roses fuchsia, mais on va aussi trouver des roses nude, des roses couleur de bouche, des bois de rose. Enfin, il y a un nombre de couleurs et de subtilités couleurs, moi, qui me fascinait au Japon. Et voilà, donc globalement, j'ai toujours adoré le maquillage au Japon. Alors, il y a un joli teint, mais après, dans le maquillage des yeux, dans le maquillage des lèvres, on est vraiment sur un maquillage qui est assez discret, qui est assez subtil. Contrairement à ce que j'ai pu voir en Espagne où les femmes se maquillaient beaucoup, beaucoup de teint, des yeux, des lèvres, également aux États-Unis. Et en France, je dirais que c'était pas encore comme au Japon, mais c'était pas non plus. Je trouve que la française, en tout cas à l'époque, et ça l'est, et ça n'a pas été, ça a été dans le bon sens, un maquillage qui reste très naturel.
En tout cas, il y avait clairement une approche différente d'un pays à l'autre.
Oui. Et d'un autre côté, l'expérience veut, en tout cas, là, je parle côté développement produit, quand on développait des couleurs, et ça, c'est une expérience que j'ai eue chez Nina Ricci, c'était à l'époque du rouge-noir, quand on développait des teintes qui étaient soi-disant spécifiques pour le Moyen-Orient, et ben, on se rendait compte en réunion internationale que tous les pays le voulaient et que ça faisait un carton dans le monde entier. Donc, il y a des spécificités, mais c'est pas aussi systématique que ça.
Ah, d'accord. Et en 2007, tu es revenu en France et là, tu as eu un défi au sein de Bourjois toujours, celui de créer une toute nouvelle marque. Comment ça s'est passé?
Je suis rentrée en France en 2007 et j'ai eu pour mission de. On voulait développer donc une seconde marque de maquillage parce qu'on avait Bourjois déjà et on en voulait une seconde. Et ben, j'ai eu une feuille blanche. Ça, c'est un magnifique projet. J'ai eu une feuille blanche et donc il fallait que je fasse des propositions de seconde marque Bourjois. Donc 2007, on parlait déjà de naturalité, on faisait déjà attention à tout ce qui pouvait impacter la planète. Et c'est vrai que moi, j'avais quand même en tête cette expérience à l'étranger où finalement, les femmes au quotidien, elles étaient, comme je vous dis, plus ou moins maquillées, mais d'un autre côté, au quotidien, dans leur travail, enfin, on ne descendait pas les marches de Cannes tous les jours. Donc, on avait un maquillage qui était quand même plus discret, plus naturel. Et j'avais envie de proposer ça. Comme projet beauté aux femmes, puisque finalement, quand on feuilletait et quand on feuillette toujours les magazines, on a toujours une beauté, une projection beauté qui est très, très, très marquée, voilà, des lèvres très rouges, des yeux très chargés, un teint absolument parfait. Et la réalité finalement des femmes, c'était pas ça. Et donc, j'avais envie de proposer un projet beauté. Qui répondait plus à cette envie de quotidien des femmes. Et 2007, c'était aussi l'époque où les premiers fabricants proposaient des formules formulées naturellement, avec des pourcentages de naturalité qui commençaient à être très élevés, voire du 100%, et surtout, une efficacité et un résultat beauté qui étaient très intéressants et qui étaient aussi avec des bénéfices qui étaient aussi efficaces et aussi beaux en termes de résultats que la beauté traditionnelle. Et c'est là où ça commençait à devenir intéressant, c'est qu'on pouvait commencer à proposer des produits avec des 95, 98, voire 100% de formulation naturelle qui avaient une aussi bonne tenue dans le temps, un aussi beau dépôt sur les paupières si on parle des ombres à paupières, une aussi belle couverture sur les lèvres si on parle de rouge à lèvres. Et c'est ça aussi, et c'est ces deux idées que j'ai croisées. Proposer un maquillage entre guillemets quotidien avec des formules qui étaient 100% naturelles. Et je voulais en plus être certifiée par un organisme extérieur parce que le terme naturalité, naturel était très galvaudé. Tout le monde disait que les produits, les couleurs étaient naturelles et moi je voulais absolument pas En lançant une marque, je voulais que voilà qu'il y ait un organisme qui certifie que quand je dis que mon mascara était à 100% d'origine naturelle, et ben qu'il y a un tampon d'Écocert qui disait bien effectivement ce que dit la marque, c'est vrai et c'est 100% d'origine naturelle. Donc voilà l'histoire de Une. Donc c'était une marque qui donnait du style au naturel parce que toutes les gammes de couleurs étaient fumées. On parlait d'ombre à paupières sfumato. Il y avait une gamme de couleurs pour les lèvres qui était que des couleurs de lèvres. En fait, l'idée, c'était d'aller piocher toutes les couleurs qu'on retrouve dans la beauté naturelle de toutes les femmes du monde. Et c'est ça qui a été la base de départ de réflexion de toutes les gammes de teintes. Donc, il n'y avait pas de turquoise, non, il n'y avait pas de couleurs flashy, parce que ce n'est pas des couleurs qu'on trouve naturellement sur la beauté d'une femme. C'était que des couleurs issues de la colorimétrie des femmes.
Donc, tu as travaillé plusieurs années sur son développement et finalement, c'est un crève-cœur. Bourjois a été racheté par Coty qui n'a pas souhaité poursuivre cette marque qui avait alors 6 ans, c'est ça?
Alors effectivement, donc Une a été lancée en 2009 et Bourjois a été racheté par Coty en 2015-2016 et ils n'ont pas souhaité garder la marque parce que la marque c'était un bébé et que derrière tous les bébés, les enfants, il faut leur prendre la main, il faut les faire grandir, il faut mettre de l'humain derrière et voilà, donc c'était pas du tout un projet qui intéressait Coty, donc ils ont arrêté la marque. La marque Une a disparu après 2009, 2017, oui, 8 ans. Alors qu'elle était présente dans 15 pays dans le monde et qu'elle commençait à se développer, quoi.
À ce moment-là, tu as décidé de te lancer. Tes amis, notamment, t'ont convaincu?
Exactement. Alors bien sûr, autour de moi, il y avait beaucoup de tristesse de l'arrêt de cette marque. Et entre autres, mes amis me disaient, mais Sophie, on trouve plus de mascara comme il y avait sur Une. Il faudrait que tu refasses au moins les mascaras, parce que redévelopper une marque comme Une, c'est énormément d'investissements, parce que c'était quand même une marque avec plus de 20 produits, 200 références. Donc ça, d'un point de vue personnel, c'est compliqué. Et autour de moi, voilà, on m'a dit, mais pourquoi tu ne redéveloppes pas les mascaras? C'est vrai que le mascara, c'est un produit, c'est le produit, le premier produit que finalement on va mettre. Le matin, on se lève, on met son mascara, on ne sort pas de chez soi sans son mascara. C'est un produit en beauté qui est absolument essentiel et qui est le numéro un, qui était le numéro un des ventes sur Une et dans beaucoup de marques aussi. Et donc ça avait du sens de retravailler, de réfléchir effectivement à une formule qui soit une formule, en tout cas de la même construction que la formule qu'il y avait sur Une. Donc je suis repartie de cette construction de formule, je suis repartie de ces matières premières. J'ai cherché un petit laboratoire parce que j'avais vraiment envie de m'approcher au plus près de la formule de Une. Donc, bien évidemment, j'avais toutes les matières premières. Il faut aller faire des essais pour essayer de reconstruire cette formule. Et donc, il fallait que le labo accepte que je dirige un petit peu la formule comme je la souhaitais. Et donc, voilà. Et donc, on a abouti une formule. J'avoue que j'ai eu une fée qui derrière est venue mettre un petit coup de bâton sur la formule pour lui donner l'onctuosité que je recherchais. Et donc voilà, donc on a redéveloppé la formule Une pour les mascaras haute vue, une marque que j'ai lancée en 2000, enfin il y a un an maintenant, elle a un an et il a eu un an hier.
Oh, joyeux anniversaire!
Voilà, joyeux anniversaire haute vue, la marque a eu un an hier.
Et pour récapituler, tu dirais que quelles sont les forces finalement des mascaras à leur haute vue?
Alors ce qui est différent aussi de la formule de Une, c'est que j'ai souhaité choisir des matières premières qui soient toutes polyvalentes, de manière à ce que on est une formule qui soit 100% d'origine naturelle, mais on est également une formule où toutes les matières premières ont une action de soin sur les cils. C'était vraiment important pour moi. Et déjà, il faut savoir que les formules de mascara, c'est une émulsion, donc il y a au moins 50% d'eau. Et ce qui n'était pas le cas sur une et ce qui est le cas sur Revue, c'est que cette eau, je l'ai remplacée par une eau végétale active à base d'hydrolat de bambou qui fortifie les cils, mais qui aussi booste la croissance des cils, parce que le bambou, c'est vraiment une plante qui pousse très très rapidement, qui est composée avec un taux de silice végétal qui reminéralise le cil et qui permet effectivement une croissance et de fortifier tous les cils un petit peu ternes, un petit peu mous. Donc ça, c'est l'hydrolat de bambou. Et dans l'eau végétale active, il y a également de l'aloe vera. Donc l'aloe vera, ça plutôt, ça hydrate le cil. Donc franchement, déjà, on a au moins 50% du cil qui travaille à la fois sur la force du cil, l'hydratation du cil et sur booster la croissance. Et puis ensuite, il y a des matières premières comme le beurre de karité qui nourrit le cil. Il y a de l'arginine qui est un acide aminé qu'on a dans notre corps et qui booste la croissance des cils. Donc voilà, il y a plein de matières premières que j'ai vraiment choisies pour qui travaillent à la fois, qui façonnent la structure de la formule, qui permet un résultat de maquillage qui soit rapide, qui ait une tenue parfaite dans la journée, et des matières premières qui apportent un soin sur les cils. Voilà un peu l'unicité de la formule sur haute vue.
Oui. Leroux nous demande où trouve-t-on vos mascaras?
Alors aujourd'hui, j'ai choisi de développer de deux façons la vente des mascaras, donc sur le site hautevuebeauté.com et puis à travers des pop-up. Ça me permet, moi, ça fait un an que je rencontre mes clientes et ça, c'est un vrai bonheur parce que toute mon expérience chez Bourjois, j'étais quand même plutôt dans les bureaux et la cliente, elle était loin. Même si quand j'étais en Espagne, c'était quand même plus, on était plus proche des clientes. Mais là, donc là, je suis vraiment en direct. Donc, je donne des rendez-vous tous les mois en pop-up. Là, par exemple, à partir de jeudi, je commence 15 jours au pop-up du Cherche Midi, qui est en fait l'endroit où je suis le plus souvent, qui est au 70 rue du Cherche Midi. Et donc là, je peux présenter les mascaras. Et étant donné que j'ai mes clientes qui sont en face de moi, bah, je me permets aussi de les conseiller en termes de couleurs quand elles ont envie de sortir du noir. Donc là, je fais appel à la colorimétrie. Et c'est vrai qu'en fonction de la couleur des cheveux, de la couleur de la peau, la couleur des yeux, il y a des couleurs qui sont plus naturelles, même si c'est de la couleur, à certaines femmes qu'à d'autres. Par exemple, le prune pour les femmes qui ont les yeux verts, pour les femmes automne, par exemple, c'est absolument magnifique. Pour les femmes hiver, les brunes aussi, c'est très joli.
Au niveau des brosses de mascara, tu m'expliquais que c'est très important pour le rendu final. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce marché avec les brevets qu'il peut y avoir?
Les brosses de. Il y a une vraie compétitivité sur les brosses de mascara. Et je me souviens, même quand j'ai démarré aujourd'hui, je sais pas comment sont structurés les départements, mais je sais que chez L'Oréal, il y avait un département qui s'occupait des dépôts des brosses de mascara. Parce qu'un mascara, c'est quoi? C'est une formule, mais c'est également la brosse. Et bon, après, il y a le système d'essorage qui permet de régler la matière sur la brosse, mais c'est le combo brosse formule, ça c'est vraiment. Et donc il y a une vraie compétitivité des marques sur les brosses. Moi, mon choix, en fait, au début, j'avais commencé à chercher des brosses, et en fait, je me suis retournée vers les grands faiseurs de brosses de mascara. Il y en a deux, trois dans le monde. Hein. On parle vraiment des grands, grands, grands fabricants de brosses de mascara qui sont vraiment des experts, qui connaissent aussi bah, tous les dépôts. Parce que quand on a une brosse qui rentre dans un dépôt de L'Oréal, ben on a des problèmes. Et donc, ben, j'ai contacté les fabricants avec qui Bourjois et Une avaient l'habitude de travailler. Et ils ont accepté de me vendre bien évidemment leur très bonne brosse avec bah, la complication quand on est une petite marque, c'est qu'on ne peut pas acheter des gros gros volumes Et je remercie justement les fabricants de bronze qui ont accepté effectivement de fabriquer des lots pour eux qui sont petits, mais pour aider à développer des marques. Donc sur haute vue, j'ai deux types de brosses. J'ai une brosse qui est très fine. Donc toutes les deux là aujourd'hui, c'est des brosses qui sont en plastique recyclable, bien évidemment. Et donc j'en ai une qui est conique, qui est très fine, qui permet effectivement d'aller vraiment à la racine des cils et qui va étirer les cils. Et c'est une brosse que je vends beaucoup, beaucoup, beaucoup aux femmes que je rencontre en pop-up, qui ont des cils très courts, qui ont une frange de cils un peu étoffée, parce que c'est vraiment une brosse qui ne fait pas de paquets, qui prend les cils, qui les étire, qui les définit et qui les allonge. Et elles sont généralement très très contentes. Et j'ai une deuxième brosse qui est un peu plus épaisse, qui est une brosse qui va donner du volume, mais qui reste un volume qui est naturel. Ça là-dessus, j'essaie d'être claire. C'est pas un volume qui charge énormément. Alors vous pouvez mettre une deuxième couche, bien évidemment. Pour donner plus de charge, plus de résultats, d'intensité au regard, mais ça reste un volume naturel. Et je travaille, et bientôt, j'espère d'ici un mois, je croise les doigts, j'aurai un volume qui charge un peu plus pour les femmes qui aiment bien avoir un mascara qui est plus marqué.
D'accord, c'est le prochain développement chez Haute
Et
Vue.
voilà, un prochain lancement, tout à fait, ouais.
Quand tu disais les dépôts, c'est les dépôts de brevets, hein.
Les dépôts de brevets sur le nombre de fibres, la façon dont les fibres sont disposées, ça peut être quoi? Ça peut être aussi les formes, que toutes ces brosses qui sont ce qu'on dit en silicone, c'est pas la silicone d'ailleurs, c'est un mauvais terme, c'est un plastique là. Moi, c'est des brosses qui sont en PE, je crois, et donc ça peut être aussi les formes, ça peut être le nombre de picots, enfin c'est la longueur. Ou le mélange de longues de courtes, enfin, c'est très 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 précis et c'est toujours très compliqué pour les marques de venir développer des nouvelles brosses parce qu'il y a beaucoup beaucoup de dépôts.
Et oui, donc dur de créer des alternatives quand
Ouais.
autant de réussites ont été brevetées, quoi.
Voilà.
Et toi, au quotidien, avec qui tu travailles finalement, de qui tu es entourée?
Alors, mon quotidien, c'est beaucoup avec mon laboratoire, bien évidemment, où on parle, en fait, les productions, parce que j'essaie de faire des petites séries, et j'ai la chance avec ce petit laboratoire de pouvoir faire même des couleurs et de faire des petites séries en termes de couleurs. Donc, c'est des échanges sur les appros aussi, parce que c'est comme les brosses, hein. En général, les laboratoires enfin, les fabricants demandent des quantités, des minimums de quantités qui sont très, très importantes et qui sont difficiles à supporter pour une petite marque. Donc voilà, le laboratoire et la directrice du laboratoire. Ensuite, sur tout ce qui est communication, j'ai une coach sur Instagram avec qui je peux échanger. Je fais beaucoup de choses, mais j'avoue que je travaille aussi avec elle pour mes questions, pour essayer de trouver des sujets de communication, faire des brainstorming. Et puis après, j'ai toute ma communauté, ça va être plutôt tout ce qui est des ventes, toute la petite communauté de créateurs avec lequel je fais des pop-up. Donc, c'est des gens qui m'accompagnent depuis un an maintenant et que je retrouve avec plaisir tous les mois. Et c'est vrai qu'on est très solidaires, on travaille ensemble et donc ça fait partie un peu aussi des équipes de Haute Vue.
Des créateurs d'autres marques, c'est ça?
Exactement. Mais on a vraiment créé une communauté où vraiment on est très solidaires, on échange beaucoup à la fois sur des problématiques, sur des conseils de personnes qu'on a rencontrées qui peuvent aider. Voilà, on est très solidaires et j'avoue que c'est un vrai plaisir de les retrouver tous les mois. Au-delà de retrouver des clientes, c'est aussi très sympathique cette solidarité qu'il y a avec ces créateurs dans le pop-up.
Chris nous demande, n'utilisez-vous que des ingrédients naturels?
Oui, 100%. Oui, il faut savoir qu'en plus de ça, là, je n'ai pas les moyens de me faire certifier par Ecocert sur le 100%. Mais si je le dis, c'est parce que de toute façon, pour lancer un produit dans la cosmétique, il faut faire ce qu'on appelle un DIP, un dossier d'information de produit qui va être déposé sur les plateformes européennes. Et ce dossier, il est signé par une toxicologue. Et c'est elle qui m'autorise à dire que ma formule est 100% d'origine naturelle parce qu'elle a vérifié toutes les matières premières et elle a bien vérifié que tout était 100% d'origine naturelle.
D'accord. C'est aussi le cas pour tes huiles de soin, puisque tu as aussi développé des huiles de soin et tu les fabriques toi-même dans un laboratoire, c'est ça?
Alors les huiles de soin, autant un mascara, c'est compliqué et je pense qu'il faut une vraie expertise pour les émulsions. Et donc c'est pour cette raison que je fais appel à voilà un laboratoire expert en cosmétique. Autant sur les huiles, ce qui est compliqué sur les huiles, c'est je dirais de créer la formule, c'est-à-dire de trouver les bonnes compositions, les bonnes synergies d'huile, les bons pourcentages, les bons équilibres aussi entre les oméga 3 et les oméga 6 ou inversement d'ailleurs, c'est plutôt oméga 6 oméga 3. Et donc j'avais très envie parce qu'en fait chez Bourjois quand je développais des produits, il y avait le département de la formule, le département du packaging, le département la réglementation, il y avait toutes les équipes qui étaient là pour finalement accompagner le chef de produit ou la directrice de marque sur des développements. Et j'avais très envie de comprendre toute la chaîne de développement que je voyais de loin, que je comprenais de loin, mais je l'avais jamais fait. J'avais très envie de le faire. Et donc, je suis partie, j'avais envie de concevoir une idée, de créer la formule et d'aller acheter mes matières premières, d'écrire le dossier d'information produit avec tous les tests que ça implique, les tests de bactéries, les tests de stabilité, enfin tous les tests qu'implique en fait un développement de produit, les échanges avec la toxicologue, aller déposer mon dossier sur la plateforme européenne. Apprendre à fabriquer selon ce qu'on appelle les BPF, la bonne pratique de fabrication, acheter mes packaging, créer mes dossiers de production, aller vraiment voilà, avoir mes produits et aller les vendre. Donc j'avais vraiment envie de faire le produit de A à Z. Et c'est ce que j'ai fait sur les huiles. En fait, entre Hauteville et Bourjois et Une, j'ai eu une petite expérience en fait avec une marque qui s'appelait Unix, qui faisait de la cosmétique fraîche. Et c'est vrai que les huiles, j'ai découvert en fait le trésor de beauté que sont les huiles. C'est vrai que l'huile végétale a beaucoup de similarités avec la peau. Il y a une vraie fusion entre notre peau, c'est composé d'acides gras comme peut l'être notre peau. C'est riche en vitamines, en nutriments qui sont très bons pour la peau. Et donc j'avais envie, à l'occasion d'Hauteville, de développer une courte gamme d'huiles de soins. Et donc là, j'ai vraiment étudié toutes les monographies des huiles. J'ai sélectionné toutes les huiles qui permettaient de répondre à un bénéfice qui correspondait à ce que je voulais apporter aux femmes. J'ai travaillé après avec un expert en aromathérapie qui m'a justement rééquilibré parce qu'il faut un ratio entre oméga 6, oméga 3 doit être inférieur à 5 dans les synergies d'huile pour éviter tout ce qui peut être inflammation sur la peau. Donc tout ça, j'ai retravaillé avec cet expert qui m'a corrigé les pourcentages et donc j'ai développé cette gamme d'huile. Donc il y a un contour des yeux, il y a un sérum visage pour les peaux matures, il y a une huile démaquillante. Et c'est vrai que ces huiles, une fois que la composition est bien arrêtée, ben il faut faire l'achat des matières premières. Et je loue le laboratoire avec lequel je travaille. Je mets ma charlotte, je mets ma blouse, je mets tout ce qu'il faut. Je suis les bonnes pratiques de fabrication et je fabrique moi-même les huiles.
Un tout nouveau métier.
Voilà, mais c'est sympa.
Oui, là, tu maîtrises toute la chaîne, du coup.
Exactement, je trouve ça intéressant. Après, moi, c'est mon côté, ma curiosité qui aime bien tout comprendre. Et voilà, j'avais pas eu l'occasion jusqu'à maintenant d'avoir cette visibilité de A à Z, et maintenant je l'ai.
Et côté communication, comment tu te fais connaître? Est-ce que tu fais par exemple un peu de marketing d'influence?
Alors, j'en fais pas encore beaucoup. Il faut que je m'y mette. J'avoue que il faut que je commence à effectivement à sélectionner des influenceuses, mais je voudrais vraiment des influenceuses qui correspondent à la marque. Donc c'est un vrai travail de recherche.
Bien sûr.
Mais voilà, donc j'essaie d'avoir une communication qui est régulière sur Instagram. J'essaie d'apporter, de donner sur Instagram. Ça, c'est quelque chose que m'a appris ma coach. Donner des conseils. Enfin, voilà. J'essaie de ne pas m'arrêter, enfin, de me limiter à la promotion de mes produits. J'essaie d'apporter des conseils de maquillage, des conseils sur le soin des cils, qui vont un peu au-delà, finalement, de mes produits. Et ça, je trouve ça très important de le faire. Me faire connaître, les pop-up, hein. Les pop-up, en général, je garde toutes les contacts des clientes avec lesquelles j'ai échangé. Donc là, je crée toute une communauté de clientes. Je fais des newsletters également régulièrement. Enfin, j'en fais une par mois. Je fais aussi un peu d'UGC, ce qu'on appelle les User Generated Content, de manière à, pareil, à démontrer des résultats de maquillage. Donc ça, c'est important. Voilà où j'en suis pour l'instant.
En effet, comme tu dis, ça prend beaucoup de temps.
Ouais.
Donc, vu tout ce que tu fais, c'est petit à petit. Est-ce que tu aurais un produit cosmétique un peu incontournable qui ne soit pas de la marque Audi?
Oui, j'en ai un. Alors, je suis toujours très attachée à la maison Chanel. Et ils ont développé un produit. Enfin, c'est un produit que moi j'avais déjà. En fait, c'est un produit que j'utilise depuis très très longtemps. C'est en fait une crème poudre. Déjà, je l'utilisais chez Shiseido quand j'étais très jeune. Après, j'ai eu l'occasion de la développer sur une. Et puis là, donc Chanel vient de la développer il y a quelques années dans leur gamme beauté naturelle. Et ça s'appelle, dans la gamme des beiges, voilà, ça s'appelle la crème Belle Mine Ensoleillée. Et en fait, je n'aime pas la poudre sur le visage. Alors, j'ai utilisé beaucoup de poudre Bonne Mine, mais en fait, je trouve que ça reste à la surface. Et quand c'est une texture qui est crème poudre et qu'on utilise avec un gros pinceau type un kabuki, eh ben, ça permet d'avoir un résultat qui est très naturel. Il n'y a pas de, voilà. C'est, en fait, la crème poudre se fond avec la carnation. Et ça donne un côté bonne mine de manière très naturelle. Et ça, c'est vraiment un produit que j'adore.
Merci pour toutes ces informations passionnantes. On va passer à la rubrique Les auditeurs t'imaginent, puisque chers auditeurs dans Beauté Imaginée, les auditeurs se laisse porter par la voix. Ils imaginent ma belle invitée. L'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. C'est donc à vous de participer en répondant à nos devinettes concernant Sophie. Pour quelles compétences Sophie avait-elle été recrutée en marketing chez Bourjois? Quelle a été sa plus grande fierté chez Bourjois? Quel est le produit de maquillage que Sophie déteste porter? Pourquoi Bourjois l'a recrutée? On avait eu pour son diplôme en marketing, elle déteste le rouge à lèvres. Est-ce que y a du bon dans cette réponse ou pas du tout?
C'est vrai qu'effectivement, je ne porte pas beaucoup de rouge à lèvres, mais
Oui.
pas complètement ça. Il y a encore un produit que j'aime encore le moins.
Chris nous propose Bourjois l'a recrutée pour ses compétences en marketing spécialisé en cosmétique. Sa fierté est d'avoir convaincu Bourjois de créer le bureau des couleurs et elle déteste porter du fond de teint.
Ah oui, il y a du bon là. Oui.
On a également pourquoi Bourjois l'a recrutée pour sa créativité. La fierté, c'est la création de la nouvelle marque, une. Et le produit détesté, c'est le fond de teint. Est-ce qu'il y a du bon?
Oui.
Et nous avons aussi Andrea qui nous propose, Sophie n'aime pas porter du tout de fond de teint.
Tout à fait.
Alors, vas-y, tu peux nous éclairer. Donc, pour commencer, le produit que tu n'aimes pas, c'est le fond de teint, alors.
Effectivement, j'aime pas le fond de teint. Je trouve que ça camoufle, ça. Enfin, même si aujourd'hui, bien évidemment, les formules ont énormément évolué. Voilà, j'aime bien unifier mon teint, mais je n'aime pas couvrir ou camoufler mon teint. J'ai besoin que ça respire, en fait. Ouais.
Et pour ce qui est de la compétence pour laquelle tu as été recruté chez Bourjois?
La couleur. pour mon œil couleur que je ne connaissais même pas. Hein. Quand je suis arrivée, je ne savais pas que j'avais un œil sur la couleur, un œil particulier sur la couleur. Bien évidemment, il y a d'autres compétences, mais dire la différence, mon unicité, c'était vraiment ça.
Et puis
Madame
petit à
Couleur, on m'appelait.
Oui. Et petit à petit, c'était vraiment voilà ta force en fait. On savait, tu étais la référente.
Ouais.
Quelle a été ta plus grande fierté chez Bourjois alors?
Bah, c'est la feuille blanche et la création de la marque une, de A à Z, bien sûr.
Et
Ouais.
oui. Le côté feuille blanche, c'est passionnant, peut-être que ça donne un peu le
Bah,
vertige
je le
aussi.
souhaite à tout le monde, hein. Je le souhaite à tout le monde, ouais. C'est très stressant parce qu'on se dit, mais je vais jamais y arriver. Et d'avoir derrière une direction qui vous fait confiance en disant, si, si, je sais que tu vas y arriver et tu vas me créer une nouvelle marque.
Ouais, c'est
Ouais,
génial.
c'est génial.
Merci, chers auditeurs, d'avoir répondu à nos devinettes. Je posterai sur Instagram juste après le live la photo mystère de Sophie. Nous arrivons à la fin de notre émission de beauté imaginée sur les mascaras naturels bio haute vue. Merci beaucoup, Sophie, de nous avoir fait découvrir ce secteur précis des mascaras, nous avoir raconté toutes ces anecdotes.
Avec plaisir.
Vous pouvez suivre les aventures de Sophie et de haute vue sur le compte Instagram haute vue beauté, tout attaché. Pour ma part, vous pouvez vous rendre sur mon blog pour écouter les replays des podcasts et pour découvrir plus d'infos beauté, c'est beautéimaginée.com. Les podcasts comme celui-ci sont ensuite disponibles sur les grandes plateformes de podcasts. Une dernière question, Sophie, pour une prochaine interview dans Beauté Imaginée, est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait être un bel invité?
Oui, alors je pense à Audrey, qui a développé la marque qui s'appelle Rose Pirate. Et Rose Pirate, en fait, on a toutes des très beaux étuis de rouge à lèvres dans un tiroir qui sont vides. Et en fait, le projet de Rose Pirate, c'est de donner une seconde vie à ces beaux étuis de rouge à lèvres. Tous ces beaux étuis de rouge à lèvres à laquelle vous voulez redonner une vie, vous les envoyez chez Rose Pirate. Elle va les nettoyer, les stériliser, et dedans, elle coule un baume qui est 100% d'origine naturelle, qui est très onctueux, qui permet de nourrir et de faire du bien aux lèvres et de donner effectivement une seconde vie à tous ces beaux étuis de rouge à lèvres. Audrey, je pense qu'elle a un parcours passionnant également et elle pourra vous raconter toute sa belle histoire autour de Rose Pirate et de l'upcycling finalement des étuis de rouge à lèvres.
C'est très intéressant comme démarche, en effet. Je
Ouais,
vais
ouais.
aller regarder. Eh bien, merci encore et puis à bientôt pour un prochain épisode de Beauté Imaginée.
Merci Alice et merci à toutes.
Je vois que vous êtes encore là à la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi toute cette interview. On se donne rendez-vous sur les réseaux, Instagram notamment, pour que je sache ce qui vous plaît. À bientôt sur Beauté Imaginée. Voici Beauté Imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis à visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée. Un indice révélé sur cet homme ou cette femme. Beauté Imaginée, c'est mon compte Instagram, sans accent, un tiret. Secret que je me plais à questionner lors de mes lives en invité. Et j'espère, moi, vous inspirer et j'aspire à vous transporter. Autour d'un thème, vous présenter comment l'invité parle beauté. Ses habitudes, même banales, j'attends pas du phénoménal. Je veux qu'on découvre son idéal de beauté, sa routine normale. Mes chers auditeurs, bienvenue sur Beauté Imaginée. J'espère vous avoir convaincu que j'aime quand vous participez. Allez cliquer pour commenter quand j'interviewe mon invité sur son approche de la beauté. Ou pas. Si tu aimes la musique, le classique électronique ou le contemporain. Mes auditeurs estiment, si tu fais plus ou moins, que ton âge à ta voix et à ton expérience, à tes produits, tes choix, tes avis, tes exigences, partagés en transparence.
To you.